Bonjour à tous. Donc on va commencer par faire l'appel. Donc Isabelle Touzard, présente. Alain Valette-Vialard.
Présent.
Laurence Rousseau. Alors Laurence vient de nous appeler. Elle a un empêchement de dernière minute. Elle pourra peut-être nous rejoindre, mais c'est pas sûr. Problème personnel. De dernière minute. Serge Boulet.
Présent.
Claudine Moyan.
Présente.
Denis Pierre.
Présent.
Mylène Julier, absente. Laurent Mailloux.
Présent.
Anne Jiménez.
Présente.
Laurent Moulin.
Présent.
Françoise Hazard.
Présente.
Romain Deloustal, absent. N'a pas laissé le pouvoir. Béatrice Taglioni-Kloster.
Présente.
Mathias Mignard, donc.
Mais non, mais
j'ai pas. Ah non, c'est possible, excusez-moi. Excusez-moi. Jean-Paul Massat. Béatrice Poncic.
Présent.
Joanne Servigna. On n'a pas donné d'excuse ou de pouvoir, est absent. Cécile Corsinos, de même, pas de pouvoir. François Deissy, de même, pas de pouvoir. Gilles Chicot.
Présent.
Donc on fait tourner ça ainsi que le compte-rendu du conseil municipal du 22 novembre. Donc on passe au point suivant, approbation de l'ordre du jour, vous l'avez sous les yeux, est-ce qu'il y a des observations? Je passe au vote, qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Il nous faut désigner un secrétaire de séance qui se propose. Betty, donc merci, directrice classique, secrétaire de séance. Et on passe à l'approbation du compte-rendu de la séance du 22 novembre 2016. Y a-t-il des observations? S'il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre son approbation? Qui s'abstient? Il est adopté. Approuvé à l'unanimité. Et on passe donc au point à l'ordre du jour. Donc le premier point, je suis désolée Jean-Paul, c'est l'installation donc du nouveau conseil municipal, un nouveau conseiller municipal au sein du conseil. Voilà, donc, pardon.
On a le droit d'applaudir.
Oui, on peut. Attends, je fais la délibe.
Est-ce qu'on peut la visiter?
Je vais expliquer. Donc, en fait, nous avons reçu le 23 novembre 2016 un courrier de M. Mathias Mignard nous informant de son intention de démissionner du conseil municipal pour raisons personnelles. Et donc, conformément donc à l'article 270 du Code électoral, dès lors que dans une commune du type de la nôtre, un conseiller municipal est amené soit à démissionner, soit pour une raison ou une autre à quitter le conseil municipal, c'est le dernier élu immédiatement situé après lui sur la liste électorale qui est appelé à le remplacer et donc à prendre le siège devenu vacant. Donc sur notre liste, Muriel Notre Avenir, la personne immédiatement positionnée derrière Mathias et Jean-Paul Massat. Donc, dans l'ordre, après il y avait quelqu'un d'autre avant. Il y avait quelqu'un d'autre avant, mais qui est dans le conseil, je ne sais plus qui. En tout cas, le premier qui arrive, c'est Jean-Paul. Et donc Jean-Paul, automatiquement, rejoint le conseil municipal. Donc nous le souhaitons bienvenue. Et donc ce que nous demandons au conseil, c'est de prendre acte ici. Vous n'avez pas à délibérer, enfin vous n'avez pas à vous prononcer pour ou contre. C'est un fait qu'on nous rejoint et on vous demande d'en prendre acte. Et puis on peut applaudir Jean-Paul. Et lui souhaiter bienvenue.
Merci. T'as pas porté sa bouteille.
Je sais pas, Jean-Paul, si tu voulais ajouter quelque chose.
Non, vas-y,
faut s'en prendre. Sans patine comme ça.
On va lui faire une petite tablette, hein, monsieur le conseiller.
Oui, on va faire ça. Il faut quand même qu'on demande qui est contre prendre acte ou.
Non,
on prend acte, il n'y a pas de vote. Donc ensuite, on va passer au point 2 qui est la. On va passer à la convention. Ça risque de tarder. À la convention de mise à disposition du locage de stockage archéologique.
Oui.
Okay. que nous avons signé avec la DRAC. Donc c'est une convention qui n'a pas de conséquences financières, mais que nous souhaitons quand même soumettre au conseil, parce que j'ai des conséquences en termes notamment d'assurance, etc. Donc le local archéologique et sa nouvelle extension, donc qui ont été terminées la fin de l'année dernière, vous savez, sont consacrés au dépôt des vestiges archéologiques, hein, qui sont trouvés notamment sur Oppidum. Et le local appartient à la commune. Par contre, les vestiges qui y sont déposés ont différents statuts. Hein. Vous savez que la possession, elle dépend aussi de l'inventeur, du propriétaire de la parcelle, etc. Comme c'est un dépôt qui accueille des vestiges qui sont découverts depuis de nombreuses années, c'est assez compliqué en fait à faire. Par contre, la gestion de ce dépôt est sous la responsabilité de l'État et de la DRAC, notamment de l'Action régionale des affaires culturelles. Et c'est la DRAC qui ensuite, en retour, confie d'une part à M. Tollard, donc archéologue, le soin de faire la gestion, je dirais, scientifique et l'exploitation scientifique de ces vestiges. Il confie aussi à la métropole, à Diane Dussault, qui est une conservatrice au musée Latara, tout ce qui est la gestion autour de ces dépôts-là. Et donc, il nous faut établir une convention qui nous permet de mettre à disposition en fait, le local à la DRAC. Donc c'est une convention qu'on a élaborée avec la DRAC. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, c'est un effort important de la commune, ce dépôt, parce que la commune quand même, prend en charge tous les fluides, hein, tout le fonctionnement du bâtiment. Ils ne sont pas très importants, parce qu'il n'y a pas de chauffage, on ne chauffe pas les pierres, mais bon, il y a de l'électricité, il y a de l'eau, et puis il y a aussi bon, tout ce qui est alarme, etc. Et puis voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses importantes à dire par rapport à l'entretien, bien entendu, qui nous revient. C'est la direction, c'est la DRAC qui se prend en charge de l'aménagement intérieur, les étagères, etc. Pour l'instant, on n'a encore pas fait d'inauguration de cette extension, je ne sais pas si vous l'avez noté. On attendait que justement l'équipement intérieur soit fait et qu'il y ait déjà des choses d'amener à l'intérieur pour pouvoir faire l'inauguration. Et ce qui se dessine, c'est qu'on fera peut-être, on vous propose en tout cas de faire l'inauguration en même temps que se fera l'inauguration de l'installation qui va être faite au forum avec la métropole. Vous savez que sur le forum du Castellas, il va y avoir une couverture qui va être installée, un équipement qui va permettre de protéger les salles qui sont à l'arrière du forum. Donc ça va se faire cette année, sans doute, dans le courant de l'été. Et donc l'idée, ça serait peut-être de combiner un petit peu ces deux chantiers-là, ces deux fins de chantier-là, pour faire un événement, une inauguration un petit peu même temps. Puisque c'est les mêmes acteurs qui sont concernés, c'est la métropole, c'est la DRAC, c'est la commune, etc. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur ce sujet. Voilà. C'est une convention importante pour une petite commune comme la nôtre, parce qu'elles sont rares les communes de notre taille qui ont des dossiers archéologiques aussi importants que cela. Mine de rien, quand même, c'est un effort important pour la commune et pour son budget notamment. Bon, ben, je passe au vote. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour accepter les principes qui sont énoncés dans cette convention mise à disposition du local et puis de m'autoriser à signer la convention? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On passe au point 3 qui concerne un groupement de commandes avec la métropole pour l'acquisition d'un logiciel de commande publique. Là, Nathalie, je te laisse te présenter. Parce que c'est quand même lié, ça aurait été Laurence normalement, mais c'est lié aux affaires générales. Non, mais dire deux mots oui.
Dans le cadre du schéma de mutualisation, on a travaillé pas mal sur les marchés publics. On s'est aperçu que les communes, souvent petites, n'avaient pas d'outils de gestion de la commande publique, justement. On rédige tout à la main, les avis d'appel public à concurrence, les marchés, tout ça. Et en fait, il existe des outils, des logiciels qui peuvent nous aider à faire tout ça, à faire le marché anticipé, donc toutes les pièces à nous. Et ensuite, l'analyse des offres, tout ce qui sert à faire un marché public. C'est assez cher, mais là, en mutualisant, on pourrait avoir des prix assez intéressants. L'idée, c'est de se lancer dans la démarche de mutualisation et de commande groupée. Ça n'engage à rien. Si ça ne nous convient pas, parce qu'on estime qu'on ne fait pas suffisamment de marché dans une année, et que voilà, le faire comme ça, fonctionne très bien. On ne sera pas obligé d'y aller. En revanche, si le prix est intéressant et que vous trouvez un intérêt, notamment sur l'analyse des marchés, parce que c'est ce qui est un peu compliqué, la préparation des pièces, et ben, on vous soumettra ça pour voir si ça rentre dans le budget ou pas.
D'accord.
Ouais, c'est deux principes, en fait. C'est une délibération de principe sur l'engagement.
La possibilité, en fait, de le faire. Petite question.
C'est seulement si on l'utilise qu'on aura des frais et qu'à ce moment-là, de toute façon, on est recontacté, enfin, on est re-informé.
Oui, là, ils vont faire en concurrence, eux, pour savoir, parce qu'il existe deux, trois logiciels de gestion de la commande publique.
C'est utilisé dans les très grandes communes, les petites communes, ils sont, enfin, des communes comparables à nous, ils fonctionnent comme
on fait pour
l'instant. Ouais.
Voilà. On fait nos propres outils d'analyse.
Un outil sur les procédures ou des...
Et toute la procédure de l'amont, de la rédaction des pièces administratives, les CCTP, les CCAP, tous les outils. Par exemple, nous, on a rédigé un marché européen pour le prestataire de cantine. C'est quelque chose de très très long et très compliqué. On a tout fait tout seul. Là, ça aurait pu nous aider à la fois dans l'analyse.
Combien on fait de marché par an?
Ça dépend. L'année dernière, on en a fait 4. Cette année, on n'en a pas fait un seul. C'est variable. Tout dépend de ce qu'on engage.
Donc, de toute façon, là, c'est l'idée, c'est le principe de constitution de ce groupement de commandes. Hein. C'est l'intérêt aussi, là, on le voit aussi, de mutualiser, d'appartenir à une métropole qui est quand même bien enclenchée. On y reviendra dans les points divers sur ces questions de mutualisation. S'il n'y a pas d'autres observations, qui est contre l'approbation de la constitution de ce groupement de commandes qui donc impliquerait Murviel notamment et la métropole, et puis j'imagine d'autres communes bien entendu, pour l'acquisition d'un logiciel de compte public, qui s'abstient, donc c'est adopté à l'unanimité. On passe au point 4, qui est un point qu'on a à chaque fois, à chaque premier conseil municipal de l'année. C'est l'ouverture de crédit. Donc là, il va s'agir des crédits en investissement. Donc avant le vote du budget primitif que l'on aura au conseil municipal du 28 mars 2017. On va revenir en fin de conseil sur les dates des prochaines fois. Donc vous le savez, en ce qui concerne le fonctionnement, donc, nous sommes autorisés jusqu'à l'adoption du budget à mettre en recouvrement recettes et engager, liquider, monter des dépenses en section de fonctionnement dans la limite des dépenses inscrites au budget de l'année précédente, ça c'est pour le fonctionnement. Et en ce qui concerne l'investissement, on est limité jusqu'à l'adoption du budget à engager des dépenses à hauteur de 25% de la hauteur du budget de l'année précédente. Donc c'est le tableau que vous avez sous les yeux. Alors, les chapitres 20, 21, 23, peut-être juste rappeler ce que c'est ces chapitres, enfin, de tête, il y a...
C'est les engagements de travaux hors études et...
Donc, si on prend 20, à chaque fois 25% de la somme de l'année dernière, vous avez sous les yeux les chiffres. Donc, au chapitre 20, ça fait un montant de 21 368,40 €, en chapitre 21, de 13 556,07 €, et en 23, de 53 173,45 €. Voilà, donc ça c'est un total donc de 88 097,92 €. Vous commencez à pouvoir investir en attendant le mois de mars. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Là je passe la main à Serge.
Oui, donc il s'agit de délibérer pour prendre la décision des participations de la mairie dans les différents séjours organisés par le centre de loisirs. Donc, sous la houlette de Mélanie Dos Santos qui prépare ses séjours pour l'année. Donc il y a des séjours qui sont organisés directement par le centre de loisirs et d'autres qui sont organisés dans le cadre de l'Interco depuis 2 ans. Alors, donc ils y sont tous. Hein. Il y a le premier séjour qui est le séjour Playa Tour qui s'organise traditionnellement à Port-le-Cat pour lequel, dans le cadre de l'UFOLEP 34 et l'UFOLEP Région, pour lequel on aurait la possibilité d'envoyer 16 enfants de Murviel.
Le premier séjour, là, le 6-10 ans,
oui.
Ça concernerait 16 gamins?
Oui, 16 places. Donc pour un budget global de 4 000 €, la CAF participe à hauteur de 10%. La mairie pourraient participer donc à hauteur de 15% et le solde pour les parents, soit pour chaque enfant, pour chaque famille, 190 euros. Alors, par contre, on est en train de réfléchir pour voir si ça sera bien de nouveau cette année dans le cadre de l'UFOLEP et avec et au Playa Tour qu'on fera ce séjour, puisqu'on n'exclut pas peut-être de faire autre chose. Puisqu'il faut savoir qu'il y a une petite réorganisation à l'UFOLEP, puisqu'ils sont passés sur le périmètre maintenant Occitanie. Et donc les séjours vont peut-être évoluer. Donc c'est pas absolument certain que ça soit pour le cadre et que ça soit dans le cadre de l'UFOLEP qu'on fasse ce séjour. Enfin, pour le moment, c'est celui-là qu'on peut voir. Donc la proposition, c'est de voter une participation mairie à hauteur de 15% du budget global, soit 576 euros.
Ça, c'est un maximum.
C'est le maximum si tous les s'il y a 16 demandes.
Après, du coup, c'est au prorata des enfants.
Ouais. Ça correspond à la participation de l'année dernière ?
Oui. Au début, tout début, quand on est arrivé, on était plutôt vers 20%, si je me souviens bien, et on a diminué. 15%, c'est là où, oui, c'est l'équivalent de l'année dernière. Après, ça va être un peu les mêmes choses pour les autres, mais déjà, donc, sur cette première proposition, sur le point 5, est-ce qu'il y a des observations ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 6.
Sur le séjour en Auvergne, aux Roussières, donc, pour les plus jeunes à 5-7 ans, là, ça, pendant 3 jours, du 11 juillet au 13 juillet. Là aussi, c'est pour à destination de 16 enfants. Donc avec les mêmes quantités de participation, donc sur un budget global de 1 800 euros, il est proposé que la mairie participe à hauteur de 15%, soit 259,20 €, ce qui ramènerait le coût des familles à 115 euros par enfant.
Comment t'expliques ce séjour-là, c'est quoi la destination ?
C'est en Auvergne.
C'est... Oui, c'est 3 jours.
Des observations, des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. On passe au troisième séjour.
Ça, c'est un séjour dans le cadre de l'Interco pour la deuxième année qui rencontre un vif succès parce que pour les Nouvelle-Loi, c'est nouveau. Hein, ouais. Il s'agit d'aller au ski. Donc là, ils vont partir après-demain si on participe.
Ça va, tes pressions. Ça va.
Je vous laisse décider.
Ils ont la valise qui est prête.
À Saint-Léger-les-Ménèzes, dans les Hautes-Alpes. Donc là, il s'agit. Alors là, c'est de 6 à 17 ans. Il y a différents groupes qui partent. Séjour enfant et séjour ado. Donc c'est au total 8 enfants, 6, 11 ans et puis 4 ados. Pour un budget global de 2 820 euros, avec une participation mairie de 15%, soit un total de 420 euros. Ce qui ramène le coût famille à 400 euros par enfant, pour une semaine au ski.
On doit savoir combien il y en a qui vont pas.
Oui, là c'est complet.
C'est complet.
Ouais.
Des questions par rapport à ce projet ? Le séjour, donc qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté à l'unanimité. Au point 8.
Donc le point 8, c'est à Villefort, en Lozère. Ouais. Donc là, il s'agit d'un séjour qui s'échelonne sur plusieurs semaines entre le 8 et le 30 juillet. Donc vous avez tout le détail, et donc on est toujours sur des quotités de. Alors là, c'est 14%, c'est peut-être un arrondi. Participation mairie pour un montant total de 553 euros. Voilà, sachant que ce que je n'ai pas dit sur chaque séjour, c'est que quand on est dans le cadre de l'Interco, on mutualise aussi les animateurs. Hein, donc Mélanie est souvent présente pour diriger des séjours et puis il y a toujours des animateurs qui contribuent. Et chaque commune participe à hauteur de ses moyens et en contrepartie obtient aussi des places au prorata des effectifs de la commune. C'est comme ça que c'est calculé. Hein. Chaque commune dispose d'un nombre de places au prorata de la taille de la commune.
Pour chacun des séjours, on connaît, ça peut toucher combien de gamins, on vient ?
Là, c'est 16, 4 par...
4 par séjour.
4 par séjour.
Et il y a une attention à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes ?
Oui, alors il y a des ordres de priorité qui sont donnés, c'est-à-dire que si un enfant est déjà allé dans un séjour, il est en liste d'attente. Hein. Il ne peut pas, même s'il s'est positionné très vite, il sera en liste d'attente s'il reste des places.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc la tarification est adoptée à l'unanimité. Ben, merci beaucoup. Moi, je dirais que c'est vraiment... Enfin, on en a parlé hein, dans le bulletin, on a fait un petit article précisément là-dessus. Ces aspects de... Il y a dans le cadre de la mutualisation, de l'interco, ce qui est fait en faveur de l'enfance et des jeunes, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant, très dynamisant. Et ben, ça rejoint aussi les autres sujets hein, qui sont traités, c'est la culture et puis l'emploi. L'interco, c'est vraiment pour beaucoup de satisfaction.
On peut peut-être faire un petit rappel pour les familles fragilisées économiquement, hein, qui peuvent faire appel au CCAS pour des aides. J'avais dit à Mélanie. Peut-être le rappeler, d'accord.
Ok, bon ben, on passe au point suivant. C'est donc une demande de subvention pour l'aménagement de l'espace des abeilles, qu'on appelle l'espace des abeilles. C'est un espace qu'il faudra peut-être aussi renommer. Donc, vous savez, on avait déjà dit par ici, la commune a conservé la gestion, la responsabilité d'espaces verts communaux. Tous n'ont pas été transférés à la métropole. Donc, rapidement, pour les rappeler, il y a le cimetière, l'espace, le petit jardin à côté de la mairie, l'espace dit des abeilles, il y a la ruche, l'espace à côté de la crèche, l'espace, le plateau sportif, le jardin de l'église, peut-être d'autres petits endroits, mais c'est les principaux. Et donc, au sein de l'équipe EMENA, on a adopté des priorités pour réactiver, je dirais aménager ces lieux afin d'y accueillir voilà, les différentes manifestations voilà, qu'on y imagine. Alors on a déjà il y a 2 ans commencé avec le petit jardin de la mairie, ça rencontre un franc succès avec l'aménagement qui permet d'y dérouler plein de choses, faire de la musique, faire de la gastronomie, etc. Et puis pour cette année, on s'est orienté sur 2 espaces, celui des abeilles et celui à côté de la crèche. Donc là, on vous soumet par rapport aux abeilles, dans un premier temps. Donc cet espace des abeilles, en fait, il a été investi, pour rappel, dans un premier temps, suite à déjà la proposition d'une première association, l'association AMPA, Association des mécènes et parrains d'abeilles, qui a choisi Murviel, enfin, qui nous a proposé d'y installer son premier prototype de ruche pédagogique. Ça, c'était un premier point de lancement, je dirais. Ensuite, c'est une deuxième association, Actom, qui a proposé de remonter le mur en pierre sèche et d'y faire un escalier en pierre aussi, ce qui était nouveau. Du coup, je dirais que cet espace, ben, petit à petit, prend forme. On a, nous, côté communal, débroussaillé, du coup, pris en main. Du coup, le propriétaire tout à fait riverain, qui est même encerclé par notre parcelle communale à lui-même, débroussaillé, remis en état des choses. Et là, ce qu'on propose, donc il y a un groupe d'élus qui a travaillé, donc Laurent Maillot, Betty Poncic et moi-même, sur un concept qui viserait à aménager au minimum cet espace, notamment pour le rendre accessible et sécurisé, donc un cheminement et puis notamment une clôture au niveau de la parcelle de M. Pertusier pour protéger les accès, donc un aménagement minimal qui libère quand même des espaces sur lesquels ensuite les initiatives citoyennes variées ou des enfants puissent se dérouler autour de thématiques, autour de façon très large, la biodiversité. Il faut dire aussi que cette parcelle se trouve dans la fameuse coulée verte qui va depuis la CAF coopérative jusqu'à l'Oppidum. Donc là, on a constitué donc un dossier qui a permis de chiffrer. Je ne sais pas où c'est. Voilà. On a chiffré donc avec un paysagiste cette structure de base, c'est-à-dire le cheminement, la plantation d'arbres aussi, parce que les arbres, bien entendu, c'est important de contrôler ça, parce qu'une fois qu'on a planté des arbres, on ne les bouge plus, donc de bien veiller à ça. Et puis cette fameuse clôture. On profitera aussi, si les moyens le permettent, mais ça c'est dans un deuxième temps, de refaire le béton, la couverture, vous savez, au niveau de la fontaine romaine, juste en dessous, qui est dans le ruisseau de la fontaine, en fait, et qui est aussi un cheminement, et qui est assez abîmé, assez érodé, au niveau, en face de la fontaine romaine, pour rendre aussi l'endroit un petit peu propre. Voilà, donc on a fait un chiffrage qui est monté à 7 928,15 € hors taxes. Et on vous demande de bien vouloir valider ce programme d'investissement qui est très léger pour pouvoir nous permettre de demander des subventions au conseil départemental, régional et à la réserve parlementaire, sachant que ce type de projet est éligible auprès de ce type de financeurs. C'est une chance quoi. Alors autant, même si le montant n'est pas élevé, tant que faire se peut, autant essayer que ça coûte le moins possible. On a déjà des signaux au niveau de la réserve parlementaire comme quoi ça passerait. Donc,
à quelle hauteur ?
50%.
50%. Pas
mal.
Donc on pourrait s'y retrouver. L'idée, c'est que, juste une information, dernière information, je ne sais pas si tu veux compléter Laurent, mais il y a avec Actom, mais avec le centre de loisirs, donc avec Mélanie et Lauricia, dès le retour des vacances de février, vont être mis en place des bacs pour planter des plantes mellifères. C'était déjà un projet qui était l'année dernière, mais qui a été reculé parce qu'il faut, faut qu'il y ait une équipe derrière pour s'en occuper, et puis il faut que ce soit propice au niveau des saisons, c'est pas évident parce qu'on est très lié aux saisons aussi. Et puis, autre événement, c'est le muraillé qui nous suit, Alain Mathieu, qui est un des trois muraillés du Languedoc professionnel, qui nous a informé que son métier est reconnu métier d'art maintenant, et donc il propose pour les muraillés son métier d'art. Il a un label, je ne sais plus exactement lequel, et donc il a proposé d'organiser sur Murvielle, dans le cadre des journées européennes des métiers d'art, une animation sur cet espace autour de la pierre sèche, donc caladage et montage de choses en pierre sèche. Donc on est en train de voir exactement ce qu'on fera. Donc ce sera le week-end du 1er avril pendant 3 jours. Le week-end du 1er avril pendant 3 jours.
Et le week-end de Pâques, non ?
Non, c'est avant. Le week-end de Pâques, il y a. Donc pendant 3 jours, donc l'animation va essayer de communiquer largement là-dessus. Donc caladage et pierre sèche, en lien aussi avec Actom. Après, Laurent, peut-être ajouter sur la permaculture
Comme tu l'as dit, ouais. L'intérêt de cet espace, c'est que derrière, c'est collaboratif. Il peut y avoir des initiatives diverses avec divers acteurs qui viennent apporter leur touche, leur contribution pour faire que ce soit vivant dans un esprit de diversité, tout en restant dans la fibre agroécologique et préservation de la biodiversité. Quoi. Mm-hmm. Donc c'est évolutif aussi, on peut démarrer quelque chose, dans un peu autre chose, c'est pas quelque chose de figé, par contre il faut structurer avec les aménagements et les arbres. Voilà. C'est ça qui va structurer l'ensemble et derrière.
L'idée c'est vraiment que ce soit un espace qui soit investi petit à petit par les associations, le centre de loisirs ou même les particuliers qui ont envie de venir y planter. Des faits, des propositions, voilà, moi j'ai des plantes, tiens, on pourrait les mettre à tel endroit. Oui, dès lors que ça rentre dans quelque chose qui n'est pas incohérent, hop, on les met, quoi. Voilà. Les centres de loisirs, pensez aussi à des petits hôtels à insectes, des choses comme ça, voilà, ça peut être un lieu. Et puis c'est aussi un jour qui peut évoluer, quoi. Un jour, quelque chose est enlevé, quelque chose est remis, quelque chose change. Si par exemple, l'association en question veut faire des stages en permaculture, on peut imaginer des buts, etc., en permaculture pendant quelques temps, et puis après, autre chose s'y met aussi.
Ouais, oui. Imaginer un peu de compostage collectif.
Ouais. Aussi, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce projet d'espace, des observations. Bon, bah écoutez, on va passer au vote. Donc, pour l'approbation de ce programme d'investissement et pour la sollicitation d'une subvention auprès du conseil départemental, conseil régional et auprès de M. le député au titre de sa réserve des parlementaires. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Peut-être un point d'information, parce que c'est tout neuf, tout récent. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un autre espace, c'est celui à côté de la crèche. Donc, on est en train de avec le groupe d'élus concernés, donc Denis, Béatrice, Laurent qui était absent et Serge en retard, mais c'est pas grave, et Nathalie, voire pour aménager au minimum, notamment avec un tableau électrique et puis un point d'eau, pour que les manifestations puissent se faire plus facilement à cet endroit-là. Après, ça c'est une première étape. Un aménagement plus structuré, peut-être plus conséquent, pourra être fait dans un deuxième temps et pourra faire l'objet d'une demande de subvention. Mais ça, on y réfléchira dans un deuxième temps. Voilà. Alors ensuite, demande de subvention pour la sécurisation de l'école. C'est Alain ou Serge ?
Oui, alors suite aux attentats terroristes de fin 2015 et 2016, il y a le ministère de l'Intérieur et l'Éducation nationale qui ont demandé aux communes de s'organiser, notamment dans le cadre d'une circulaire en juillet 2016 qui était assez précise sur ce qui était demandé aux communes en termes de sécurité dans et aux abords des établissements scolaires. On s'est engagé là-dedans. Et dans le cadre de ces circulaires, elles ont mis en place aussi un dispositif financier pour accompagner les communes pour se mettre à niveau. Alors, il y a différents dispositifs, il y a eu des éléments qui ont commencé avec des exercices à la fois de mise en sécurité des enfants, notamment des exercices de confinement qui sont intervenus pendant l'hiver, puis qui interviendront de nouveau chaque trimestre jusqu'à la fin de l'année. Et donc dans ce cadre-là, on a réfléchi, nous, comment on pouvait améliorer la sécurité d'une manière générale autour de l'école, et puis aussi autour du centre de loisirs, puisque c'est aussi un lieu qui est fréquenté par le public et notamment par des enfants. Et alors, il faut savoir aussi qu'à Murviel, on a eu, nous, à notre niveau, à subir quelques petits désagréments avec des visites inopinées la nuit de personnes qui ont escaladé à la fois la cour de l'école élémentaire ou la cour de l'école maternelle et qui squattent le soir ou la nuit la cour, et on retrouve le matin des canettes, on retrouve pas mal de choses dans la cour. Et puis on a eu plus grave aussi à subir des vols à l'école élémentaire, avec notamment des vols de deux vidéoprojecteurs qui avaient été financés par la commune dans le cadre du projet numérique qu'on mène avec l'école élémentaire. Donc là effectivement on subit des dégradations et on subit des vols. Donc on souhaite utiliser ces dispositifs-là pour rechercher des financements et mettre en place une sécurisation de la cour et puis des deux écoles et du centre de loisirs, mais ça ne rentrera pas dans le cadre des fonds. Donc on propose de mettre en place différentes choses, de poser des alarmes anti-intrusion dans les écoles, au centre de loisirs et à la médiathèque, de créer un portillon à l'arrière de l'école maternelle. Pourquoi ? Puisqu'en fait, dans le cadre du plan de prévention de sécurité, on considère, et c'est une disposition de la circulaire, il faut prévoir des sorties autres que la sortie par l'entrée principale de l'école. Donc on souhaiterait mettre en place une sortie par l'arrière de l'école. On souhaiterait aussi rehausser le portail de l'école élémentaire pour essayer de compliquer la tâche à ceux qui souhaitent escalader le portail, puisque c'est le cas aujourd'hui. Et puis, dans le cas du confinement qui est demandé et qui dans les classes, il faudrait poser un rideau occultant dans une classe qui manque aujourd'hui à l'école élémentaire. Voilà. Donc l'ensemble de ces dispositifs s'élève à un coût de 11 279 euros hors taxes.
Excuse-moi, je ne comprends pas la pose d'un rideau dans le projet de sécurisation d'école. Occultant, c'est quoi ça...
En fait,
oui,
le confinement occultant. Quand il y a une intrusion.
Ah oui, ça quoi ouais. ça...
Et puis, il faut que les rideaux soient forcément occultants, ignifugés. Enfin, il y a des caractéristiques spécifiques dans les classes. Donc,
Oui, d'accord. Non, mais je voilà, mais dans ce projet-là, je suis surprise...
C'est pour le confinement, tu
peux expliquer. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a deux types de sécurisation, enfin d'exercice. Il y a l'exercice d'évacuation qui existe depuis très longtemps dans les écoles, qui est réalisé régulièrement.
Mais il doit exister un plan d'évacuation.
Oui, bien
sûr. Et alors, ils vont où les maternelles aujourd'hui quand il y a...
C'est différent pour la sécurisation.
Ouais.
Donc là, il y a le fait d'évacuer pour les différents risques possibles. Puis il y a le fait, donc, dorénavant, ce qui est demandé dans les écoles, de se confiner pour se sécuriser dans l'enceinte de l'école et dans l'enceinte des classes, et de ne pas bouger, de rester confiné avec des rideaux qui sont fermés, voilà, pour être à l'abri. Et dans ce cadre-là, il faut que les rideaux soient occultants. Donc ça, c'est des exercices qui ont déjà été réalisés en 2016.
Et qui vont se réaliser. Et il n'y a qu'une classe qui n'est pas équipée. Oui.
Voilà.
Alors dans ce cadre-là, on en profitera aussi pour, vis-à-vis du centre de loisirs, procéder à quelques petits ajustements, notamment rendre plus visible pour la directrice du centre de loisirs l'arrivée des enfants et des parents, enfin en tout cas l'arrivée de, à l'intérieur du centre de loisirs. Donc on va reconfigurer l'accueil du centre de loisirs, et puis on va certainement aussi essayer de mettre en place une temporisation de la porte, ce qui permettrait, en dehors des heures d'arrivée classiques des enfants et de départ des enfants avec les parents, ne pas permettre à n'importe qui de rentrer, puisqu'il n'y a pas de raison que passer 9h le matin et passer et avant 17h le soir, que quelqu'un ait besoin de rentrer. Donc il pourra rentrer, mais il faudra sonner afin qu'on puisse lui ouvrir.
Est-ce qu'il y a des observations, des questions par rapport à ce plan de sécurisation de l'école? Donc c'est bien dans le contexte actuel de sécurisation par rapport au risque d'intrusion et d'attentat.
Donc en fait, c'est une alarme qui est à l'intérieur?
Pardon?
Qui est à l'intérieur des locaux? L'anti-intrusion? C'est comme ça, quoi.
On est sûr d'avoir le jour des 80%
de subvention là-dessus? Non. Alors, on ne sait pas. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est déjà de pouvoir accepter le principe des travaux. C'est comme toujours pareil. Et puis de solliciter l'État pour obtenir ces subventions. On vous tiendra informé du niveau de subvention.
Non, parce que j'ai cru que c'était demandé par l'État.
Non. C'est pas exigé.
Ah, c'est recommandé.
Ce qui est peut-être exigé, c'est le rideau pour le confinement. Il est obligatoire.
Parmi les mesures qui ont été demandées dans le cadre de la circulaire, c'est notamment de sécuriser tous les abords quand les enfants arrivent le matin et quand ils partent le soir. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec la présence de Karim Amran. Mais ce n'est pas nouveau, on l'a toujours fait, puisqu'il est toujours présent. Et ensuite, il y a des dispositifs qui sont attachés, enfin qui concernent plutôt notamment les directrices d'école, avec la fermeture systématique et les parents qui ne rentrent plus dans les écoles. Et c'est les enfants qui sortent et qui sont plus en charge.
Il n'y a plus d'adultes qui rentrent dans les écoles. On doit fermer la porte et personne ne rentre en dehors des heures d'accueil. Quoi.
La question, est-ce qu'il est prévu énormément un peu blindé pour mettre en sécurité les appareils qui coûtent cher, quoi.
Oui, c'est prévu. Parce que c'est une demande en fait qui a été faite par les écoles dans le cadre des demandes de travaux et d'entretien. La commission de travaux va se réunir. Bon, après ça.
Mais attention, on va faire cette demande de subvention dans le cadre de fonds qui sont liés à la sécurisation des écoles dans le cadre de l'état d'urgence et de la protection contre les intrusions. Il y a des actes terroristes. Hein. C'est dans ce cadre-là qu'on se...
Protéger
les
vidéoprojecteurs, c'est pas vraiment...
Donc, ce principe de travaux de sécurisation et la demande de subvention à l'État au titre du FIPDR et de la DTER, du Conseil départemental, Conseil régional, êtes-vous contre? Qui s'abstient? Donc, la délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, on va maintenant passer aux questions diverses. Elles sont assez nombreuses. C'est des points d'information, de débat. Alors, on commence peut-être par une première information. C'est le nom que nous avons décidé de donner au futur lotissement qui est sur le lieu dit actuel de la Morte. Donc, on a fait une consultation avec notre arbre à idées là, dans le hall de la mairie. Donc, il y a eu pas mal de propositions. Très rapidement, il y avait des propositions qui évoquaient un changement de cap, le renouveau. Alors c'était renouveau, renaissance, espérance, la vie, la vive, l'avenir et même l'amour. Il y a eu des propositions qui étaient relatives à la situation particulière de ce lieu, hein, qui est donc située à l'entrée du village. Donc tout ça, vous l'avez dans le bulletin municipal, hein, ces noms. Donc il y a eu le levant, le point du jour, bienvenue, plein soleil, etc. Il y avait des propositions liées à l'histoire et à la toponymie du dieu. Donc les Saliniers, le nom, c'est le nom du chemin qui aboutit à la croix de Cade, Samnaga, Vacares, qui est le nom du... apparemment le nom qui apparaît pour le chemin des anciens tennis, Vertublad, qui est le nom du ruisseau. Et puis des propositions liées à la biodiversité qu'on a protégée en évitant la ZAC et en réduisant, en passant de 25 à 5 hectares. Donc les cistes, les arbousiers, la licorne, la magicienne, très jolie la magicienne.
Ouais, très bon.
La gélinotte, etc. Poétique. Et puis enfin des propositions un peu plus classiques pour Murviel, liées plutôt à sa tradition viticole, les vignes, etc.
Bacchus.
Pardon ?
Bacchus.
Bacchus, quartier de Bacchus, etc. Donc, nous sommes réunis et je ne sais pas si le bruit court déjà dans le village, enfin, nous avons retenu le nom des Saliniers. Donc, ce nouveau quartier va s'appeler les Saliniers. Alors, c'est un élément lié donc à la toponymie, enfin, disons, à l'histoire de ce lieu. En fait, les Saliniers, c'est le nom du chemin qui vient de Monte de Pignan, passe à la Croix de Cade et ensuite permet de rejoindre les anciens tennis. Ce chemin est en fait un chemin antique, c'est un chemin très ancien qui, en fait, c'est le chemin qui autrefois relayait sans doute la voie domitienne au Castelas. Donc chemin antique très ancien, mais surtout à partir du Moyen-Âge qui a été le chemin de passage des saulniers ou des saliniers qui transportaient le sel depuis les salins du littoral jusqu'aux Cévennes. Il y avait un autre chemin similaire des sauniers qui rejoignait Vic-la-Gardéole à Agnane en passant par Cournonterral. Donc c'était des chemins de mulets. Et ces chemins avaient une importance très, très grande à cette époque-là, dans le sens où le sel, c'était vraiment, la denrée, enfin la matière qui avait le plus de valeur à l'époque. Au Moyen-Âge, c'est ce qui permet de conserver les aliments. Parce qu'il y avait la gabelle, etc. Et c'était presque de l'or, quoi, à l'époque, cette matière-là. On retrouve trace du chemin des Saliniers dans le cadastre napoléonien de Pignan, c'est mentionné. Et il y a donc François Favori, un historien qui a fait tout un travail sur ce chemin. Donc c'est aussi peut-être quelque chose qui est sorti de la mémoire de nombreux Mirviellois, donc c'est aussi un clin d'œil pour remettre un petit peu ça en avant. Je pense que là c'est peut-être une interprétation plus personnelle, ça montre aussi que certes Murviel, c'est, on dit toujours, le patrimoine, on aurait pu s'attendre à ce qu'on sorte quelque chose d'archéologique, de viticole, qui est prêt beaucoup dans l'identité de Murviel, mais là ça montre aussi qu'on est, c'est un village qui était en lien, qui était très ouvert et qui était relié notamment avec le littoral, à travers des saliniers, et que les saliniers étaient aussi présents à Murviel, qui était une étape importante, hein, et qui se faisait sans doute du côté du Mas de Garin par là-bas. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des commentaires, certains veulent faire un commentaire sur... Ah si, peut-être ajouter ce que je disais, c'est que les autres propositions qui ont été faites, par contre, on les retient. Parce que quand il faudra choisir les noms de rues, les noms de placettes, les noms d'impasses, etc., on pourra reprendre ça. Et on pensait notamment, je ne vais pas dire si je me trompe, mais on pensait, par exemple, des termes liés à la biodiversité, notamment la faune qu'on a sauvegardée, ça pourrait être des noms sympathiques pour des... Ouais. Ça viendra. Là, pour le coup, sur le nom du lotissement, on n'a pas besoin de délibérer. C'est un choix des élus, la majorité. Par contre, dès lors qu'il s'agira des noms de rues, noms de placettes, places, avenues, là, il faut des délibérations. Je sais pas s'il y a... Donc maintenant, fini la morte. Et bienvenue les Saliniers. On ne parle plus de la morte, parce que ce nom nous sortait par les yeux à la fin.
On ne lâchera pas des gens de continuer éternellement.
Enfin, ouais, mort, bien sûr. On ne sait toujours pas pourquoi ça s'appelait la morte. Après, un autre point, toujours lié un peu à ce qui se passe au Salinier, les mesures de compensation. Alain ?
Dans le programme d'aménagement du Salinier, dans les inventaires qui ont été faits, on a été montré, qui a été fait dans le cadre de la ZAC, qui a été réactualisé l'année dernière, il y a un certain nombre d'habitats et il y a des espèces qui sont protégées. C'est-à-dire que l'aménagement, en se réalisant, va détruire des habitats protégés et vraisemblablement un certain nombre d'individus et d'espèces protégées. Ce qui est totalement interdit par la loi, sauf si on peut obtenir une dérogation dans des cadres qui sont bien, bien précis et en mettant en place des mesures de compensation. C'est-à-dire que l'étude a montré que l'on allait détruire de l'ordre de moins d'un hectare d'habitat et d'espèces. La compensation doit porter sur 4 fois plus. C'est-à-dire qu'on est tenu, si on veut pouvoir faire cette opération-là, de trouver dans la commune 4 hectares ou 5 d'espace abritant les espèces que l'on va détruire et leur habitat. En l'occurrence, il s'agit du lézard osselet. Donc, on a travaillé avec on a commencé à dégrossir le problème avec un bureau d'études qui s'appelle Ecomed, qui avait fait l'étude d'impact de la ZAC initiale. Donc, il avait toutes les données en sa possession pour définir et préciser les types de compensation qu'il fallait faire. On est allé avec le bureau d'études sur le terrain pour voir les habitats possibles sur la commune. Il apparaît que, on a regardé sur le Castelas, au niveau des terrains communaux, on a trouvé du côté du Pioche-Cherrier, Rouquier, qu'il y avait des surfaces assez conséquentes, largement au-dessus de 4 hectares, qui abritaient ce type d'habitat, ce type d'espèce. Donc on est parti sur l'idée que la compensation porterait sur cet espace, mais l'État nous demande que l'on s'engage sur cet espace-là, d'abord d'en avoir la maîtrise foncière, ce qui est le cas sur les terrains communaux, ensuite que l'on assure pendant une durée qui est entre 25 et 30 ans, la pérennité de ces habitats et de ces espèces, par des méthodes de gestion appropriées. Il se trouvait que dans ce secteur-là, on avait déjà un berger qui pouvait assurer la gestion du milieu dans le bout du temps. Donc c'était un élément favorable en plus. Donc on a demandé au bureau d'études de nous bâtir le dossier qui sera transmis à l'ADREAL pour examiner sa recevabilité. L'ADREAL, c'est la Direction Régionale de l'Environnement, l'Architecture du Logement, l'Aménagement du Logement, pour s'assurer de la recevabilité du dossier. Ce dossier sera transmis vraisemblablement à une commission nationale, Conseil national de la protection de la nature, qui donnera un avis sur la pertinence de ces mesures de compensation. Et cet avis devra être repris par un arrêté du préfet qui permettra de régler ces problèmes environnementaux sur le secteur des saliniers. C'est un dossier, un problème qu'on a découvert parce qu'on a fait des études, on n'avait pas imaginé. On va essayer de régler dans le temps qui reste. C'est donc un travail qui est en cours, qui va se faire et qui va permettre d'aboutir à la présentation de ce dossier-là. Est-ce que j'ai été clair là-dessus ?
Oui. La grosse chance qu'on a, c'est d'avoir un berger juste à côté qui cherche des pâturages.
Oui, dans le bureau d'études,
juste à côté.
Les parcelles qu'il exploite aujourd'hui, elles sont juste.
Le bureau d'études doit non seulement garantir qu'on a effectivement les habitats et les espèces sur le site, mais il doit définir aussi les préconisations en matière de gestion, à la fois pour la remise en état immédiate du site pour favoriser ces habitats-là, mais aussi les mesures de gestion qu'il faudra développer sur les 30 ans qui viennent. Et il y a vraisemblablement dans le cadre de l'aménagement, oui, il y aura dans le cadre de l'aménagement un montant financier qui sera fixé, qui relèvera du PUP, projet de partenariat qu'on est en train de préparer avec GGL, avec l'aménageur, et qui sera, alors, je pense, versé à la Caisse des dépôts ou à un autre organisme pour garantir la durabilité de ces financements-là, qui seront calés sur une durée, les actions à entreprendre sur une durée de 30 ans. Donc on garantit la pérennité de cette protection sur une trentaine d'années pour les arrosser. Faute de quoi, ben on n'a probablement pas eu la dérogation, l'autorisation de détruire ces espèces-là et on aurait pu faire l'aménagement.
Voilà. Voilà, moi je pense que c'est bon, on l'a découverte sur le tard, hein, parce que c'est, et ça a été réglé quand même très très vite, donc, et dans des très bonnes conditions. C'est vrai que le berger, en plus, on permet à un berger de se développer, là, qui commence, qui a déjà 80 brebis, qui est chez M. Casal au Blaquière, et qui est dans l'attente de ce type de parcours, donc ça... Là, toute chose me paraît bon. Et puis bon, je pense qu'il faut positiver. Je pense que cette opération-là, c'est à voir, mais ce serait intéressant, j'en discutais aussi avec Mélanie, par exemple, d'associer les enfants ou quoi à la découverte de cette petite bête, quoi, les arrosser, et toute l'opération qui est menée autour de son habitat, qui va être faite autour des pierres, des clapasses, etc., pour préserver ce lézard. Donc on peut aussi positiver, et je trouve que ça peut être intéressant. Et puis ben voilà, c'est un terrain communal qui du coup va être entretenu, quoi, par un berger. On a une vingtaine d'hectares, hein, autour, je crois.
Justement, on se demandait comment on allait faire pour entretenir cet espace.
Il y a eu un incendie en 2014, juste à côté.
C'est pas
curé. Après... C'est bon pour ce point. On vous fait un point, vous avez entendu parler de la fibre, de l'arrivée du haut débit sur Murviel, donc faire un point fibre.
Alors, voilà. Point fibre. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est jamais très très clair. Vous avez vu dans la presse les délibérations du Conseil métropolitain sur le déploiement de la fibre en 2018. Dans le déploiement de la fibre, il faut distinguer. D'une part, une fibre qui doit relier un central, ce qui pour nous est en plus à Pignan, jusqu'à ce qu'ils appellent des armoires, et qui arrivera une fibre avec ces armoires, et c'est à partir de ces armoires que la fibre sera déployée sur chacun des logements des appartements, chaque personne individuelle à sa demande. Donc, les armoires peuvent être déployées, on devrait avoir 90% d'armoires déployées en 2018. Et dans la première tranche qui est en cours, concerne essentiellement la métropole. Et la deuxième, non, la première tranche concerne 6% de la métropole, pardon, est en cours. Et la deuxième tranche, qui va concerner 13% du territoire de la métropole, va se dérouler de mi-2017 à fin 2018. Et l'éligibilité d'un individu particulier à la fibre devrait être progressive à compter de début 2018. Bon, c'est des chiffres, des échéances qu'il faut prendre avec un certain nombre de précautions. Par exemple, ça c'est un contrat qui était passé entre la métropole et Orange. Par contre, on a reçu, nous, des demandes à la mairie d'installation d'armoires par SFR. Donc là, on a une demande, il y a trois armoires qui vont être installées sur la commune par SFR, parce qu'ils regroupent le nombre de logements par groupe de 300. Donc il y en a une qui sera à la rivière Long, une autre qui sera du côté de la mairie, et la troisième, je ne sais plus quel endroit exactement. Bon, ça va se faire. Mais ce n'est pas Orange. Par contre, également, SFR avait envoyé un courrier à la métropole en début d'année, pour dire qu'elle s'engageait à déployer la fibre pour que les particuliers puissent avoir accès à fin 2020. Bon, toujours est-il, c'est que le mouvement est en marche, que ça relève d'opérations qui sont des opérations en caractère privé, sur lesquelles nous, on va essayer d'avoir des informations précises et puis influencées pour pouvoir tenir les délais, et que tout le monde et que la fibre soit déployée dans le meilleur délai à Muriel. C'est quelque chose qui va arriver, je pense, dans le courant 2018-2019, qu'on devrait avoir. Après, il appartiendra à chacun de demander une connexion et un abonnement en fibre. À ce moment-là, à partir de l'armoire, il y aura une autre fibre qui sera tirée sur vers le logement de la personne, ce sera probablement groupé avec plusieurs logements, et une prise qui sera installée dans le logement pour pouvoir brancher, se brancher sur Internet et sur tous les réseaux existants. C'est une opération qui est différente de celle de la desserte, de la mairie, par la métropole, de la mairie et des bâtiments publics, qui seront la mairie, l'école primaire, le centre de loisirs et probablement l'ancien local de la Poste, qui sont en train d'être travaillés sur cet aspect-là. Donc ça avance doucement, mais ça avance. Ce qui bloque simplement, ce qui reste à faire, c'est le câblage, notamment de l'école élémentaire, qui, où il n'y a pas de câblage, qui est fait, je pense, dans le cours d'études, là, qui est dans le courant du premier trimestre, l'échéance de Pâques.
Voilà. Peut-être pour compléter, c'est pas parce que c'est Orange ou Orange via SFR qui installe les fibres que les particuliers devront forcément s'abonner à Orange, etc. Hein. Ensuite, c'est les opérateurs qui s'arrangent entre eux pour se payer les redevances, etc. C'est la même chose que pour l'antenne ici, quoi. Mais, donc Murviel, ce qui est clair, ce qui est important de retenir dans tous les cas de figure, c'est que dans cette convention métropole Orange, Murviel est dans la deuxième phase.
Donc, il y a cinq tranches en tout cas.
Dans la deuxième tranche ou deuxième phase, je ne sais plus comment on appelle. Donc nous, on est dans je veux dire, celle qui commence immédiatement après celle qui a déjà commencé. Sur, la première, c'était sur Montpellier, Juvignac, Castelnau-le-Lez. Voilà, donc là, nous sommes dans la deuxième vague qui commence en fin d'année et devrait permettre en 2018 aux particuliers de pouvoir faire ces demandes de branchement. Ce qui est une très bonne nouvelle.
Mais les bâtiments publics, eux, seront. C'est à part et ce sera fait
avant. Maîtrise d'ouvrage métropole, là. Mmh. Clairement métropole. La métropole a gardé la main, a pris la main sur le fibrage des équipements publics.
La crèche en fera partie.
La crèche.
L'équipement de la crèche.
Non, ce n'est pas prévu.
Il n'y a pas de. Il n'y a pas de complément pour les enfants qui sont à la crèche.
Il faut trop d'aider.
Par contre, pour l'école, c'est important, pour le plan numérique, etc.
La médiathèque, très important.
La médiathèque aussi. Et pour ce qui concerne les bâtiments communaux, on va jumeler ça avec, si possible, avec le téléphone, de façon à tout regrouper et d'avoir qu'un seul centre téléphonique à la mairie, qu'un seul accès Internet à la mairie, et de pouvoir tout gérer. S'il y a quelqu'un au centre de loisirs ne répond pas, c'est le standard de la mairie qui pourra répondre, etc.
Transfert d'appel.
On va remettre à plat tout le système téléphonique à l'occasion de ça. Peut-être rapidement d'autres points d'information. Le schéma de mutualisation, là j'en ai deux exemplaires si vous voulez les consulter rapidement, mais je pense que Nathalie pourra les envoyer aux élus qui le souhaitent en PDF. Le schéma de mutualisation, c'est un des éléments importants de la loi MAPAM et du passage donc de l'agglomération en métropole et puis des EPCI en général. Donc cette obligation de travailler sur la mutualisation des services hein, au sein d'un EPCI. Donc il y a eu un très gros... Là c'est un document qui fait un point d'étape à la fin 2016 et qui trace les perspectives sur tout le travail qui a été mené. Alors la mutualisation, ça porte à la fois sur un peu ce qu'on a voté tout à l'heure par rapport au logiciel lié aux commandes publiques, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les fonctions ressources, tout ce qui est lié autour des marchés, de l'administration, tout ce qui est la finance, la fiscalité, les archives, etc. Donc tout ce qui est outils, je dirais, ressources pour l'administration. Après, il y a tout ce qui est service à la population, tout ce qui tourne autour des événements culturels, de la culture, tout ce qui tourne autour du sport. Il y a tout un travail aussi autour de la valorisation, les produits locaux, les fêtes locales, etc. Comment mutualiser les choses qui se font sur tout le territoire métropolitain. Et puis, autour de l'offre culturelle pour les 11-17, dont on bénéficie déjà dans le cadre de l'Interco. Il y a un travail qui est mené sur une autre rubrique, c'est tout ce qui est aménagement et développement du territoire. Donc là, c'est par exemple la réalisation d'un SIG intercommunal, les réflexions qui se font entre communes, par exemple, autour des questions foncières, de marché foncier, etc. Autour du... d'autres opérations comme ça, tout ce qui peut aussi être mutualisation de compétences autour de l'aménagement opérationnel, les permis d'aménager, tout ça, comment mutualiser des choses. Choses qui se font déjà. Hein, on bénéficie beaucoup de l'appui de la métropole pour, par exemple, dans le cadre du projet des Saliniers, pour le montage de l'opération. Et puis, pourquoi pas aussi des interventions plus techniques autour des espaces verts, de l'accessibilité, des équipements climatiques, etc. Voilà, donc c'est un très gros travail qui est fait au niveau des services, au niveau des DGS. Il y a des groupes de travail qui ont fait de très nombreuses réunions, des propositions, etc. Avec déjà des choses opérationnelles qui sont sorties et puis des projets. Donc Nathalie fait partie des groupes culture, c'est ça, et jeunesse, enfance jeunesse. C'est aussi dans le cadre de ce schéma de mutualisation que s'est inscrit tout un travail qui est fait au niveau de la culture par un schéma aussi, un aspect sur le...
Pas encore.
Mais il est
c'est
noté.
L'initiative des communes, ah oui, bien sûr. Mais il n'est pas encore repris dans
les projets. Mais il est noté dans les projets.
Il est cité dans les projets. Justement comme initiative qui vient des territoires, mais qui n'est pas encore inscrite au schéma de mutualisation.
D'accord.
C'est le souhait de certains d'entre nous, mais peut-être pas de tous.
Ça, c'est quelque chose qu'on pourra revenir. Après, les questions liées à l'emploi, c'est également cité en projet, dans le schéma de mutualisation. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez. Ça, c'est, donc ça, je renvoie au bulletin aussi. On a fait tout un petit topo sur ces questions-là. Voilà. Donc, je ne sais pas, si vous êtes intéressé, on propose de vous envoyer ce... C'est intéressant, hein, vraiment, de voir tout ce qui se fait.
Et par mail, normalement.
Vous l'avez reçu par mail déjà ?
Je ne sais pas. Je suis par mail de la métropole. Oui.
Ah, Laurence Vidal vous l'a fait suivre déjà.
Ah, c'est ça.
C'est Laurence Vidal qui vous l'a fait suivre. Non, c'est déjà fait. Je pense que c'est intéressant que les élus regardent ce qui se fait, parce que franchement, regardez dans vos délégations, c'est très intéressant de regarder ce qui se fait. Ouais, vous tenir informé. Après, vous tenir informé aussi qu'il y a en Conseil métropolitain a été présentée l'étude MMT Montpellier. Métropole, territoire. C'est une grosse étude. Vous vous souvenez de notre projet urbain ? Eh bien, c'est ça, mais à l'échelle de l'ensemble de la métropole, quoi, avec toutes les composantes aménagement du territoire, mobilité, transport, urbanisation, énergie, développement économique. Voilà, tout ça. En fait, c'est une étude qui a été commanditée par la métropole en amont du SCOT. De la révision du schéma de cohérence territoriale. Donc, cette étude, il y a eu des réunions, il y a eu un comité de pilotage dont je faisais partie en tant que vice-présidente à l'agriculture, il y a eu beaucoup de réunions. Et là, il y a une proposition de présenter cette étude à tous les élus des communes, donc tous les conseillers municipaux, donc sous réserve de confirmation, mais vous pouvez le noter déjà, c'est le 4 mars, c'est un samedi matin au Corum. Donc, c'est vraiment la vision de. Là, vraiment à l'échelle de l'ensemble du territoire de la métropole, de ce projet de territoire, on pourrait dire, qui touche vraiment tous ces sujets. Et c'est une étude qui est intéressante. Quand même. C'est une étude qui montre aussi, qui vraiment avec une approche très globale, qui aborde aussi les questions des risques. Il y a un sujet qui est intéressant, c'est la fameuse acclimatation de la métropole. C'est comment on adapte, on s'acclimate, notamment face au changement climatique sur la métropole. C'est intéressant. Encore une dernière information, c'est les travaux sur l'esplanade des droits de l'homme, donc, qui vont commencer le 22 février. Ça y est, ça commence enfin. Donc on a les réunions de préparation des travaux et on aura une réunion publique avec les riverains et puis tous ceux qui souhaitent venir le 15 février à 18h pour expliquer le déroulement des travaux, la planification des travaux, les gênes éventuellement occasionnés, etc. Je pense qu'on invitera aussi les associations parce que, bien entendu, ça va perturber un peu l'espace quoi, et les associations qui ont l'habitude de, je pense, voilà, notamment à l'APEM pour le vide-grenier, au comité des fêtes, à les ardues, enfin voilà, tout le monde, là, il faut qu'on les informe. Ils sont déjà informés, ils ont déjà reçu un courrier comme quoi.
Ah oui.
Les travaux vont durer sans doute de février à avril, hein, ça va durer 2 à 3 mois ces travaux. Ils vont se terminer les travaux par la pause des jeux. Les jeux sont sous, je vous rappelle, l'espace jeu qu'on va en parler, le petit sous-espace jeu resté compétence communale, hein, à l'intérieur de ce grand chantier. Donc voilà, donc 22 février début des travaux et 15 février. Réunion publique pour informer. Et puis enfin, dernière information, c'est des futures dates. Alors, les deux prochains conseils municipaux se tiendront le jeudi 2 mars à 19h30. Jeudi 2 mars à 19h30 et mardi 28 mars à 19h. C'est lors du budget du mardi 28 mars qu'on votera le compte administratif et le budget primitif. Et troisième date, 19h le 28 mars. Je répète, jeudi 2 mars à 19h30 et mardi 28 mars à 19h. Et troisième date, ce qu'on appellerait par ailleurs, même si on n'y est pas astreint, c'est le débat d'orientation budgétaire, qui là est une réunion des conseillers entre eux, mais que c'est pas en formation au conseil municipal, mais ce n'est pas un conseil municipal. Il n'y a pas de délibération, c'est juste un débat. Je vous rappelle que dans nos communes, on n'est pas obligé de le faire, mais on le fait parce que c'est important et intéressant de le faire. Et ça se fera le jeudi 16 mars à 18h30.
À quelle heure ?
À 18h30. Jeudi 16 mars à 18h30. Donc je répète. Jeudi 2 mars à 19h30, conseil municipal. Mardi 28 mars à 19h, conseil municipal. Jeudi 16 mars à 18h30, présentation du débat d'orientation du Sud-Est. Voilà. Je pense qu'on a rien oublié. Et s'il n'y a pas d'autres observations, on arrête le conseil municipal. Merci à tous. Bonne soirée.